Je vous avais annoncé en introduction que le cours que je vous propose n'est pas simplement un cours d'histoire. Moi-même, je vous l'ai dit, je ne suis pas historien, je suis sociologue. Et je vous avais dit que j'essaierais, par-delà les événements, bien sûr qu'il faut connaître, les dates, les périodes de troubles, il fallait essayer de repérer ce qui est du domaine de l'héritage et de la rupture. Alors, je voudrais conclure justement en mettant l'accent sur à la fois cet héritage et cette rupture. Rupture notamment après la guerre 1945, je vous ai dit combien la guerre 14-18 avait été une période charnière, une période d'héritage bien sûr aussi, mais de rupture, et combien la Seconde Guerre mondiale présentera exactement les mêmes caractéristiques, rupture aussi à l'égard dans le cadre d'une histoire. En 1944, la France, bien sûr, se trouve dans un état de destruction et de désorganisation extrême. La France était d'ailleurs repliée sur les réseaux élémentaires, des relations de parenté, des relations familiales, des relations de voisinage, grâce auxquelles, d'ailleurs, la population a pu survivre. Mais les institutions étaient totalement broyées, les équipements de toutes sortes n'avaient pas été renouvelés, etc. On comprend alors l'importance et la volonté qu'a eu le général de Gaulle de mettre l'accent sur la reconstruction et sur la modernisation économique de la France. Et de fait, cette modernisation va réussir. Va réussir puisqu'on peut dire, pour reprendre une formule qui est une formule de Mao Zedong, la France s'est lancée dans le grand bond en avant. Alors, pas tout à fait de la même façon qu'en Chine. Mais un grand bond en avant sur le plan économique, puisque vers 1965, la courbe de croissance rejoint celle qui était celle d'avant 14. Mais il a fallu pas moins de 20 ans pour réparer les pertes et les destructions provoquées par la guerre. Je vous avais dit que la guerre 14-18 avait connu une saignée épouvantable sur le plan humain, ça a été vrai aussi pour la guerre 39-45, mais ce qui est la grosse différence, c'est que les destructions matérielles sont nettement plus importantes en 45 qu'en 1918, bien sûr. L'enrichissement s'est poursuivi de manière constante, à un rythme moyen de 6% l'an, un taux de croissance de 6% qui font rêver aujourd'hui les hommes politiques et les économistes, mais on était sur des rythmes de croissance très soutenus. Il a fallu simplement l'interruption, c'est le premier choc pétrolier en 1973 qui va mettre un terme à cette croissance extrêmement soutenue. On a parlé, vous le savez, de 45 à 74, on a parlé des 30 glorieuses, le terme est de Fourastier, Jean Fourastier, libéral. Mais il est vrai que ça n'était pas les Trente Glorieuses pour tout le monde, naturellement, mais incontestablement, les gains de productivité, le capital productif et le revenu national se sont considérablement accrus, puisqu'on considère qu'entre 1945 et 1974, la France a quintuplé son revenu national, la richesse nationale, ce qui est tout à fait considérable. Il y a donc eu un enrichissement fabuleux, spectaculaire, rapide, somme toute, après la guerre, et qui va modifier profondément à la fois l'activité économique, bien sûr, mais le paysage français. La France va se doter d'un appareil industriel extrêmement important, sans commune mesure avec celui qui était avant la guerre. Il y a aussi, bien sûr, un redressement démographique, puisque c'est la fameuse génération du baby-boom. Après 45, après cette période de privation, après cette période de démoralisation, vient la période de l'espoir, de la jouissance, on a affaire effectivement à une explosion démographique qui est un symptôme aussi d'un espoir et d'une croyance dans le progrès, social, économique, etc. On va assister aussi, bien sûr, à un mouvement d'urbanisation aussi extrêmement rapide. Dès les années 50, c'est aussi la grande période des aménageurs, de ceux qui pensent que grâce à la construction des villes, on va pouvoir améliorer la qualité de vie, etc. Il reste que la France, malgré tout, reste, ça c'est la rupture que je vous ai indiquée, mais il y a une tradition qui demeure, c'est l'héritage bien qu'il y ait eu cette explosion démographique, cet accroissement économique sans précédent, cette urbanisation, la France demeure, jusque dans les années 80, elle demeure un pays rural. Alors bien sûr, ça n'est plus la même ruralité que celle qui existait après la Première Guerre mondiale. Elle n'a plus grand-chose à voir. Mais il n'empêche que la France reste un pays dont l'activité agricole va se poursuivre. Cela dit, la composition, bien sûr, de l'activité, notamment économique, va changer, puisque en 1945, il y a encore près de la moitié des ménages qui vivent d'une petite entreprise. En 84-85, il y a près de 85%, pardon, excusez-moi, c'est 90, je me trompe des chiffres, dans les années 90, c'est 85% des actifs qui sont des salariés. Donc là aussi, recomposition importante de la population active. Les paysans, en tant que tels, ont disparu, les paysans au sens traditionnel du terme. Mais, pas les agriculteurs bien sûr, mais les agriculteurs ne sont plus que 5% dans la population active. Mais ils sont, malgré tout, ça reste un chiffre important, hein, malgré tout. Les cadres apparaissent à partir des années 50. Ils deviennent une population nouvelle, qui n'existait pas en tant que catégorie, en tant que telle. Il y avait bien sûr toujours des hauts fonctionnaires, des professions libérales, mais les cadres deviennent, c'est ceux qui ont constitué les hauts salaires, hein, ou les salaires supérieurs ou moyens supérieurs, hein, que Henri Mandras qualifiera de constellation centrale, hein, c'est-à-dire cette nouvelle composition salariale faite de hauts revenus. Eh bien, ces cadres vont représenter, dans les années 90, près du cinquième de la population. Là aussi, modification tout à fait profonde, rupture par rapport aussi à la situation d'avant-guerre. Autre évolution aussi, c'est, Dieu sait si la France était en retard sur ce plan, c'est la durée hebdomadaire du travail, qui va être en légère hausse de 46 à 64, et qui va connaître une décroissance sous l'effet de deux choses, hein, l'augmentation des congés payés, mais aussi l'augmentation du chômage et le raccourcissement de la vie active. Bon, aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes plus tout à fait dans ce mouvement de décroissance, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on tend à rallonger la durée de la vie active, puisqu'on reporte l'âge de la retraite. Le temps global d'un travail salarié aussi, hein, le temps global de travail d'un salarié moyen, a été divisé par deux, ce qui est tout à fait considérable, hein, la durée de travail s'est considérablement amoindrie. Autre modification sensible aussi que vont connaître les années d'après-guerre, c'est l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Non que les femmes ne travaillaient pas avant, bien sûr, hein, mais elles investissent la population active salariée. Hein, c'est le salariat féminin qui est la marque, hein, une des marques majeures, hein, de la transformation de la composition des catégories socioprofessionnelles, puisque ce sont les femmes vont véritablement avoir une activité, puisqu'elles vont passer de 30% en 1945 à plus de 46% en 1992. Hein. L'évolution est tout à fait importante. Des événements aussi politiques et institutionnels vont marquer, hein, ce renouveau, encore une fois, économique, social, politique de la France. C'est 1957, la signature du traité de Rome, hein, qui consacre la première forme d'institutionnalisation importante de l'Europe. 1958, la naissance de la Ve République, nouvelle constitution. Et 1962, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la fin de la guerre d'Algérie et finalement, c'est la fin de l'acte de la décolonisation. La décolonisation est achevée à partir de 1962. Mais surtout, sur le plan des mentalités, là aussi, il y a une rupture, c'est que la France, depuis 1945, pardon, n'est plus en guerre. Elle n'est plus en guerre, alors, en tout cas, au plan national, elle est investie sur des théâtres d'opération, comme on dit aujourd'hui. Hein, il y a eu, c'est vrai, la période aussi de la guerre d'Algérie, mais il n'y a plus de guerre sur son territoire national. elle va disparaître pour toute une génération. Et on a peine à imaginer ce que ça peut représenter comme bouleversement pour des générations qui ont perpétuellement été dans l'anxiété de conflits. Je pense à la génération, il y a des générations qui ont connu de guerre, au moins de guerre, hein, celle de 14-18, celle de 39-45, et parfois on a retrouvé certains en Algérie, où si on prend un peu avant, il y a eu ceux qui ont connu 1870, 1914, et les troubles aussi des années 30. Bref, à partir de 1945, on n'est plus dans ce cas de figure, c'est une génération qui n'a pas connu la guerre, hein, qui ne connaît pas la guerre. Et ça forge aussi un autre rapport au monde, un autre rapport aux autres, hein, sans conteste, et le sentiment, une certaine sérénité, en considérant que finalement, on va passer sa vie sans combattre. Et là je m'appuie sur les analyses d'Henri Mandras, pour lui, l'année 65, justement, marque une date charnière entre les périodes, enfin, dans cette période de l'après-guerre. Pourquoi ? Parce que 65, d'abord, c'est la première fois que le président de la République est élu au suffrage universel. Là aussi, c'est une rupture par rapport aux institutions. Il y avait un héritage, là. Hein. Tant qu'on était sous la 4e République, on était encore dans l'héritage de la 3e République, où le président de la République était élu par les assemblées. Or, à partir de 65, c'est le peuple, hein, qui vote pour son président. Deuxième réforme très importante qui marque les années 65, c'est la tenue du Concile de Vatican II. Concile de Vatican II, qui avait été initié par le pape Jean XXIII, et qui sera également... Jean XXIII mourra d'ailleurs au moment du Concile de Vatican II, et lui succédera Paul VI, donc ce sont les deux grands papes qui vont animer ce Concile de Vatican II. Ce Concile de Vatican II est marqué par deux choses. La première chose, c'est la réforme de la liturgie de l'Église. Hein, c'est à partir de Vatican II que l'on remet en cause la messe en latin, par exemple, hein, et qu'on met en cause un certain nombre de procédés liturgiques. Et la deuxième chose, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à la cité. Hein, ce sont les deux grandes orientations de Concile Vatican II qui vont avoir une influence directe, hein, sur l'emprise de l'Église par rapport à la société. Et notamment, on fait correspondre la décrue de la pratique religieuse, en tout cas catholique, à cette période. On voit des modifications aussi au plan de la consommation, puisque la première grande surface ouvre ses portes en 63, et à partir de 65, le commerce des grandes surfaces se répand et va transformer radicalement le mode de consommation des Français, le mode de consommation et même le rapport à l'espace, puisque les grandes surfaces concentrent la périphérie des villes et déterminent d'autres centralités que le centre historique ancien. On assiste aussi dans ces années 1965 à ce qu'on appellera la démocratisation de la culture, sous la forme notamment de l'édition. Hein, c'est le livre de poche qui apparaît en 63 et qui, bien sûr, se multiplie très rapidement et qui offre un accès à un coût très modique, hein, un accès au livre à un coût très modique. Mais c'est aussi la grande période de l'ouverture des universités, hein, la période des années 65, notamment l'université de Nanterre ouvre ses portes, hein, et on sait que c'est cette ouverture des universités qui formera toute une génération, qui sera d'ailleurs celle qui sera la génération qui portera l'événement de mai 68. On assiste aussi également à une forme d'érotisation, hein, qui est mise sur la scène publique. C'est le nu, hein, qui apparaît dans les magazines et au cinéma. Et donc c'est toute une pratique ancestrale de la décence, hein, à travers le vêtement, hein, qui vient ici et modifié, hein, profondément, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pudeur encore, bien sûr, mais elle se déplace, hein, les frontières se déplacent, et c'est dans ces années-là également qu'on assiste à cette évolution. Et aussi dans une modification profonde de ces années-là, c'est, je vous en avais déjà parlé, on l'avait déjà entrevue au sortir de la Première Guerre mondiale, mais là, elle s'affirme avec d'autant plus de force, c'est les valeurs hédonistes. C'est la fameuse société de consommation que dénonceront d'ailleurs paradoxalement les étudiants de 68. Mais c'est en même temps la jouissance, cette consommation est une manière de jouir des biens terrestres. Et c'est les valeurs hédonistes en général, le plaisir, la recherche de la jouissance, du plaisir, qui vont devenir absolument prépondérantes contre l'attitude plutôt rigoriste hein, qui a précédé les décennies passées. On pourrait dire aussi qu'il y a une évolution profonde dans le rapport au travail. C'est que, on peut dire que jusqu'en 18, hein, jusque dans les années 30 même, hein, le travail était une valeur cardinale, une valeur centrale. Or, précisément, non qu'elle ne soit pas encore importante, mais elle coexiste avec d'autres valeurs, et notamment celles qui consistent à profiter des loisirs, mais aussi de la famille, hein, de la famille à travailler moins pour jouir des produits de l'effort. C'est ça la seconde révolution qu'évoque Henri Mandras.